d'une autoroutière à l'autre, aux quatre coins du Québec. Là-haut sur l'autobus. Cube Radio. Cube Radio. Rouler dans les coulisses des élections québécoises. Antoine Robitaille.
Bon lundi à tous. Aujourd'hui à l'émission, le Parti québécois prévoit-il faire un grand rassemblement, un peu à l'image de celui que le Parti conservateur a réussi à organiser à Québec vendredi? Le chef Paul Saint-Pierre Plamondon répond par l'affirmative, se dit prêt à relever le défi avant la fin de la campagne, mais y arrivera-t-il, lui qui rencontre peu de militants dans sa tournée? C'est une des questions que nous lui avons posées dans une entrevue qu'il nous a accordée dans son autobus de campagne entre Baie-Comeau et Sept-Îles. Mais d'abord, c'est lundi, jour de chronique consti.
On s'érotise, une question constitutionnelle à la fois.
La traduction constitutionnelle.
La question constitutionnelle.
Et bonjour Patrick Taillon.
Bonjour Antoine Robitaille.
Notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval. Donc, on peut conclure que les juges, là, ils ont l'épiderme sensible, non?
Oui, c'est le grand fait saillant sur le plan judiciaire cet automne. Plusieurs discours, plusieurs textes qui ont été signés dans les journaux où on sent là, toujours le même point commun. Les juges ont de la difficulté à accepter la critique ou du moins considèrent que les critiques qui leur ont été adressées dans les dernières semaines dépassent les bornes. Donc, quelques exemples. D'abord, à l'occasion de la rentrée judiciaire, la juge en chef, Lucie Rondeau, a prononcé un discours et elle a dit être très inquiète du travail des médias. Et très rapidement, on comprend qu'elle parle de l'affaire de l'ingénieur Simon Houle.
Ah oui, qu'est-ce que c'est déjà?
C'est un dossier d'agression sexuelle où l'accusé est reconnu coupable, mais se voit imposer une peine qui a été très sévèrement critiquée cet été.
Ah oui.
Et ça a été critiqué un peu dans tous les médias, tous les chroniqueurs. Et la juge Lucie Rondeau parle, j'ouvre les guillemets, de propos inadmissibles. Dans une société où qui protège et valorise la liberté d'expression, critiquer la peine imposée à l'ingénieur Simon Houle, c'est une critique inadmissible. Sa collègue de la Cour supérieure, Marianne Paquette, elle dénonce, j'ouvre les guillemets, les attaques personnelles contre les juges. Et elle dit que chaque attaque, ben, au fond, ça nuit, là, ça fragilise notre société de droit. C'est un peu l'équivalent de dire que toute critique à l'endroit d'un élu, d'un politicien, serait une attaque à la démocratie. Je pense que là, il faut en prendre et en laisser.
Ouais. Un élu, justement, il doit se faire élire, il se soumet au jugement du public. Est-ce que les juges ne sont pas justement ne sont pas épargnés par cette espèce de regard-là du public?
Ben c'est ça la question. De nos jours, là, on opère un restaurant puis on s'expose à la critique.
Ouais.
Un professeur est critiqué sur des sites, tout le monde est évalué.
Ouais.
Est-ce que les juges, c'est les seuls qui devraient échapper à la critique des médias, du public? Je crois pas. D'ailleurs, les juges eux-mêmes disent pas ça. Mais ils nous disent beaucoup, les juges devraient pas échapper à la critique, mais... Et là, dans le « mais », on comprend que c'est pas n'importe quelle critique qui est possible.
Le « mais » est important, comme dans la phrase « je ne suis pas raciste, mais ».
Mais, oui. Claudie Bélanger, juge adjointe à la Cour du Québec, elle prononce un discours à l'ouverture des tribunaux à Ville-Saguenay.
Ouais.
Et elle dit, je cite, « il ne faut pas que la critique incite les juges à rendre des décisions qui susciteraient moins la controverse. »
Ah bon?
Comme si elle disait que la justice était humaine, qu'elle était potentiellement influençable. Que si on critique beaucoup les juges, ils vont finir par, je pense encore à notre affaire de l'ingénieur là, Simon Houle, les juges vont finir par donner une peine ou rendre une décision pour plaire au public. C'est vrai, mais on a le goût de lui répondre. C'est justement pour ça que les juges sont nommés à vie.
C'est ça.
Avec une position inamovible, qu'ils bénéficient d'une sécurité financière hors du commun. C'est pour ça qu'on leur donne, tous les juges de la Cour du Québec gagnent plus que le premier ministre du Québec parce qu'on veut qu'ils aient cette indépendance.
Voilà.
Mais là, à dire que l'édifice est tellement fragile que si on critique leur travail, le château de cartes va s'effondrer, ça me semble un peu fort de café. Et là intervient Lucas Granozic, qui est président de la conférence des juges des cours supérieures, dans les pages du devoir.
Oui, c'est un texte incroyable, cette lettre ouverte, effectivement. Là aussi, sur... il dit quand même que les juges ne doivent pas être à l'abri de la critique, le président
en
de
effet.
La conférence des juges.
En effet, puis ce que le problème, c'est qu'il dit les juges peuvent être critiqués, mais pas n'importe comment. Puis là, on comprend pas comment on va tracer la ligne entre l'attaque acceptable et l'attaque inacceptable. Il dit pas d'attaque personnelle. OK, mais...
ça veut dire quoi?
Je sais pas. Là, j'imagine qu'on peut regarder les anciens jugements d'un juge, regarder la façon dont il travaille. Par exemple, dans le dossier de Simon Houle, les médias ont regardé si le juge en question avait déjà rendu des peines du même type. On nous dit non. Il faudrait pas considérer non plus les orientations politiques passées des juges.
Ah non?
Là, on pense ici tout de suite à une sévère critique qui a été formulée cet été dans les pages du journal par Frédéric Bastien,
oui,
où il mentionnait l'implication, le passé politique, le travail de politique active qu'a fait la juge Chantal Corriveau lors de la campagne référendaire de 1995, dans un contexte où la même juge, cet été, a suspendu l'application d'une partie de la loi 96.
Ben oui.
Donc là, le juge...
je me souviens, Patrick, dans le passé... On avait aussi souligné qu'un juge, si je ne m'abuse, c'est dans les années 2000, avait été avocat pour Alliance Québec et avait prononcé un jugement sur la loi 101, aussi sur une partie de la loi 101.
Oui, bien, ça va de soi. Nos juges ont un passé, c'est normal. Il ne faudrait pas que ça les rende, que ça les empêche de siéger. Mais je ne vois pas en quoi le fait de rappeler leur passé... C'est une faute, une attaque à nos institutions. Ça fait partie des informations d'intérêt public, surtout dans un contexte, et c'est ça le grand malaise, surtout dans un contexte où tous les juges des cours supérieurs sont nommés unilatéralement par le pouvoir exécutif fédéral.
Ouais,
et ça, dans sa lettre, le juge Granozic, il fait un sous-titre complet dans sa lettre ouverte pour dire, on est nommé par le fédéral, on sent le malaise, mais vous savez, on prête serment. Donc, on a tous une couleur, un passé, mais le jour où on prête serment, on deviendrait soudainement un peu comme le prêtre qui rapporte la parole de Dieu. Là, le juge serait directement connecté vers un droit qui serait en fait complètement technique, qui serait porteur de vérité absolue. Je cite un petit passage de sa lettre. Il dit « Tous les juges ont un passé, lequel est transparent et facilement accessible. En revanche, tous les juges prêtent le serment d'agir de façon impartiale. Ils exercent alors leur charge de façon indépendante. Et là, j'insiste, ils ne prennent pas de décision selon leur idéologie ou leur préférence. Ça ne marche pas tout à fait. C'est-à-dire que les juges doivent composer avec des contraintes. La loi leur impose des contraintes, la jurisprudence leur impose des contraintes. Mais à la fin, c'est le propre du droit, c'est qu'il reste une zone grise, il reste flou. C'est ce qu'on appelle la discrétion du juge.
Voilà.
Et dans le travail discrétionnaire qui est le sien, le juge a des valeurs, des opinions. Et tout son travail n'est pas qu'une affaire d'opinion, de sensibilité et de valeurs.
C'est ça.
Il y a une partie de son travail qui relève de ça. Et donc, il essaie de cultiver l'idée que le juge, lui, il serait complètement au-dessus de tout ça. Il dit même, je le cite encore, les juges ne peuvent ni craindre ni espérer quelque promotion ou sanction que ce soit. Donc, ils sont tellement indépendants que c'est pas des gens qui espèrent une promotion.
Promotion, c'est faux. Ils peuvent passer de la Cour du Québec à la Cour supérieure, à la Cour d'appel, à la Cour suprême.
Exactement. Et les meilleurs d'entre eux, ceux qui travaillent le plus fort, vont y arriver. Et c'est important de le rappeler, cette promotion qu'ils peuvent espérer, elle vient d'où? Elle vient de l'exécutif fédéral.
Voilà.
Bien structurel de notre système. Je sais que les personnes qui travaillent dans notre système judiciaire sont honnêtes et qui veulent faire leur travail de leur mieux. C'est pas ça la question. Mais structurellement, le système fait en sorte que le pouvoir de nomination fait en sorte que si je siège à la Cour supérieure et que j'ai une discrétion, j'ai une marge de manœuvre, puis que je veux monter vers la Cour d'appel, puis un jour vers la Cour suprême, je sais que la personne qui va me faire monter vers la Cour suprême, c'est pas le premier ministre du Québec, c'est pas le premier ministre de l'Ontario, c'est le premier ministre du Canada. Et
voilà.
Ça peut m'amener à exercer la petite part de discrétion en fonction de certaines valeurs. Et là, là-dessus, je pense que la lettre du juge Granozic laisse un peu croire là, que tout ça, c'est technique et qu'il n'y a pas vraiment de discussion possible. D'ailleurs, il dit, il y a un endroit pour critiquer les juges. Autrement dit, les citoyens, là, vous ne devriez pas critiquer les juges. L'endroit approprié pour critiquer les juges, c'est l'appel.
Oui.
Quand vous avez un problème avec une
c'est-à-dire
décision, allez en appel.
Aller en appel, c'est ça.
Exactement.
Mais le des problème, appels, c'est basé sur une erreur. Il faut dénoncer une erreur du jugement précédent.
Mais d'abord, ça coûte quelque chose d'aller en appel.
Ah ben
ça coûte quelque chose. En plus, c'est pas tout le monde qui peut aller en appel. C'est seulement la partie qui a perdu sa cause.
Ouais.
Et surtout, en appel, ça prend une erreur d'une certaine gravité.
C'est ça.
Je te donne un seul exemple. Le fameux juge Deschênes, dans le dossier de la loi 101, premières décisions rendues après la loi 101.
Oui.
Il arrive et il dit, je te cite là, l'argument du Québec pour défendre sa loi 101 fait état d'une conception totalitaire de la société. Rien ne doit concourir à diminuer le respect qui est dû aux droits individuels. Puis il compare la loi 101 au rouleau compresseur du Kolkhoz, que je comprends qui est une institution communiste soviétique.
Oui, soviétique.
Bon. On s'entend là, que cet extrait-là du juge Deschênes, même aujourd'hui, le juge Deschênes dit lui-même que c'est exagéré, que c'est une erreur, que c'est grave. Puis que, tu sais, c'était pas bien d'écrire ça.
Il l'a admis à André Binette.
Oui, c'est grossier. Là. C'est une erreur grave.
Hey, il faut se laisser. On a presque terminé. Il faut dire que les juges, eux autres même, interviennent dans le public de plus en plus. On pense à Lucie Rondeau, celle que tu as citée au début, la juge en chef de la Cour du Québec. Donc, et on a vu Richard Wagner qui a fait des entrevues en direct. Richard Wagner, donc le juge en chef de la Cour suprême, et il s'expose comme ça, non? Est-ce qu'ils s'ils veulent intervenir dans le public, évidemment, il va y avoir des critiques.
C'est tout le problème, Antoine. Moi, si je donne un point à toutes ces interventions qui sont faites par les juges, là, il y a un argument qui est très solide là, de leur côté, c'est que attaquer les juges, c'est attaquer un pouvoir qui peut pas se défendre. Parce que traditionnellement, un juge, ça donne pas d'entrevue sur ses décisions.
Mais non.
Ça explique pas devant le public. Fait qu'on a des juges qui sont dans une logique de retenue. Et effectivement, oui, on est dans une société fondée sur la liberté d'expression puis la critique. Mais si on critique un pouvoir qui peut pas répliquer, c'est un peu délicat. Et face à cela, on voit que nos juges se cherchent.
Ouais.
Le juge en chef Wagner multiplie les entrevues. La juge Rondeau est allée en commission parlementaire l'année passée. Elle poursuit le ministre dans des dossiers. Elle donne des entrevues. Il y a comme un pouvoir judiciaire qui va peut-être devoir trouver une nouvelle manière de composer avec le débat public. Comment faire pour intervenir, ne pas intervenir, qu'est-ce qui est correct, qu'est-ce qui ne l'est pas. Je pense que l'ancienne vision du monde qui consistait à dire que le droit, c'est une affaire qu'on discute qu'entre initiés, qu'entre personnes formées en droit et tout, c'est une vision qui ne peut plus tenir la route dans le monde d'aujourd'hui, dans un monde où tout se démocratise. Et vient avec ça une nécessaire critique sur le travail qui est effectué. Et face à ça, il va peut-être donner au juge l'occasion de répondre. Ça, en soi, je pense que là-dessus, il va peut-être falloir faire bouger les lignes.
Merci infiniment, Patrick, pour cette chronique qu'on a enregistrée. Vous entendez, moi, je suis en campagne électorale, puis je suis actuellement dans un salon de quilles. C'est formidable. Et toi, t'es à Malaga. Alors,
on fait de la radio de brousse à la haut dans l'autobus.
Merci infiniment. Puis à la semaine prochaine.
À bientôt, Antoine.
Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Antoine Robitaille, le véritable troisième lien. Le Salon Bleu à vos oreilles. Et tout ça sans utilisation des fonds publics.
Depuis quelques jours, le chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon, a exhorté les quelques 32% de souverainistes à rentrer à la maison à bord du carrosse de Cendrillon, quelque part sur la Côte-Nord. On s'entretient avec lui. Bonjour, Paul Saint-Pierre Plamondon.
Bonjour.
Bienvenue à La Haut sur l'autobus. Avant d'aborder... oui, c'est la nouvelle, le nouveau
c'est
nom
le nouveau
de mon
nom.
Émission.
Rebranding.
Oui, c'est ça. Juste le temps de l'élection. Avant d'aborder donc la question du rapatriement des souverainistes, êtes-vous fatigué d'être dans l'autobus?
Non, c'est une vie sportive, mais on est quand même bien installé. On a un petit groupe de gens qui se connaissent bien, puis on a du plaisir à faire la campagne. Fait que je peux pas dire qu'on a, on aime cette expérience-là.
Revenons à notre question. Donc, quelle portion du vote souverainiste espérez-vous vraiment rapatrier dans cette élection-là?
Ben, la plus grande proportion possible en disant j'imagine. C'est votre maison. Il est quand même arrivé quelque chose de pas anodin au premier débat face à face TVA. Là, quand François Legault dit à Dominique Anglade « Je vous ai ravi le monopole anti-indépendantiste », il y a de quoi ébranler plusieurs indépendantistes qui, à juste titre, souhaitent que le Québec devienne un pays et qui ont voté CAQ en 2018 pour remplacer les libéraux. C'est clair que ça suscite une réflexion. Ça suscite également des réactions sur le terrain. Moi, je le vois, on l'expérimente. Là. Donc, la
quel
réponse...
genre de réaction?
Bien, on a énormément de soutien. Tantôt, on était à un restaurant aux Escoumins.
Oui.
Il y a un couple qui a vu l'autobus, puis qui a fait demi-tour, puis qui est rentré dans le restaurant pour me féliciter, puis dire de continuer, puis prendre une photo.
OK.
Mais c'est... Disons qu'en plein cœur de la pandémie, quand je suis devenu chef, c'était pas du tout le même contexte. Donc là, le Parti québécois a un espace. Cet espace-là, on s'en sert pour parler d'avenir. Et il y a une réaction. Et je dis à tous ceux qui tiennent non seulement à l'indépendance, mais c'est aussi la langue française, hein, parce qu'il n'y a que le Parti québécois qui veut renverser le déclin, qui remet en question les demi-mesures de la CAQ à ce niveau-là. QS s'en est satisfait, pas voté en faveur de ça. Mais il y a ça aussi. Là, donc, il y a comme toute cette réflexion-là dans la population québécoise et elle a lieu en ce moment. Donc, c'est super intéressant à suivre.
Mais il y a comme 32 % de souverainistes au Québec, à peu près?
Peut-être plus lorsqu'on répartit les indécis.
Mais bon, c'est sûr qu'il y a peut-être...
C'est plus que 2 millions de personnes, on peut dire ça avec certitude.
Oui, c'est ça, vous avez parlé de 2 millions de personnes.
C'est au moins 2 millions de personnes. Mais quand on se pose la question, combien il y a de millions de Québécoises et de Québécois qui s'inquiètent de l'avenir de la langue française et qui sont conscients que la loi 96 ne renversera pas ce déclin-là, il y a un sondage qui disait, je pense, 21 % seulement des Québécois pensent que cette loi-là va faire le travail. Donc, c'est tout ça qui est en jeu. Ce sont des questions fondamentales. C'est notre droit d'exister comme francophone en Amérique. C'est la pérennité de notre nation dont il est question.
Mais les souverainistes, c'est des souverainistes qui sont allés à la CAQ ou des souverainistes de Québec solidaire?
Tous les indépendantistes.
Parce que là, l'argument...
Il y a même des fédéralistes, en passant, qui m'ont dit voter Parti québécois pour la première fois parce qu'ils aiment la campagne d'idées. Ils aiment qu'on s'adresse à l'intelligence de la population. Donc, disons que la porte est très grande ouverte dans un parti qui donne leur juste sur chacun des sujets fondamentaux.
Mais votre argumentaire sur Legault qui a ravi le monopole au PLQ de du combat contre les souverainistes, il ne vaut pas pour les souverainistes de QS? Alors que QS dit qu'il va investir à peu près 500 millions de dollars sur 4 ans pour développer, justement, travailler pour l'indépendance.
Notre campagne s'adresse définitivement aux indépendantistes de QS autant que les indépendantistes de la CAQ, notamment parce que notre processus, le plan de match qu'on a pour l'indépendance, il est simple, il est efficace et on y travaille. On ne peut pas dire ça de l'approche de constituante.
Le Québec solidaire.
Oui, qui est un processus compliqué et qui mènera, comme je l'ai déjà dit, mènera automatiquement à un refus parce que c'est déjà...
Un scénario chilien.
On peut dire ça, un scénario chilien. C'est-à-dire que quand on tente de mettre d'accord une population sur 56 éléments, littéralement, c'est déjà un défi de se mettre d'accord sur l'essentiel, à savoir est-ce qu'on a le droit de décider par nous-mêmes au Québec. Mmh. On va se concentrer là-dessus. C'est ça le plan de match du Parti québécois.
Mais pour aller chercher des indépendantistes à QS, il aurait fallu que vous rajeunissiez le parti. Vous-même, en 2017, là, dans un rapport, vous disiez que 68 % des membres ont plus de 55 ans. Vous disiez au PQ, les jeunes sont comme des Pokémon rares que l'on cherche depuis des années. Quand tu en as un, tu le mets dans la photo. Hein? Vous avez écrit ça, c'est vous, là. Avez-vous l'impression d'avoir réussi à rajeunir le parti, à ramener les Pokémon?
Nous sommes dans les faits. Le parti le plus jeune des élections 2022, notre moyenne d'âge des candidats, 39 ans.
Ah oui, les candidats. Oui,
39 ans. Et ça crée un effet d'entraînement, ça crée beaucoup de réceptivité. On ne se cachera pas que le Parti québécois, sa mission, c'est de rassembler toutes les générations. Donc, à chaque fois que je m'adresse, comme ce matin, on parlait de la dignité des aînés, on parle également aux parents, puis on parle aux jeunes. On est un parti d'une cause qui doit unir toutes les générations. Vous ne nous verrez jamais tenter d'opposer une génération contre une autre. Mais dans les faits, dans ce rapport-là, j'avais dit qu'on renouvellerait l'image du Parti québécois. J'avais dit qu'on referait les pancartes du oui pour cesser de se rassembler avec des pancartes de 95. J'avais dit qu'on rajeunirait le parti.
C'est fait ça, j'en ai pas
j'ai
vu.
Suivi.
Pancartes du oui?
Ah oui, les nouvelles pancartes du oui, mon Dieu, sont affichées sur le chemin, je vais t'en montrer. Elles existent, elles ont été quand même assez achetées. Et elles vont être en valeur dans les prochaines années. Non, c'est fait. Et donc, on suit ce plan de match-là. Il y a d'autres idées, il y a d'autres facteurs qui influencent l'évolution du parti.
Mais dans vos rassemblements, vos rassemblements ne sont pas très nombreux, mais il y a beaucoup de personnes assez âgées. Mais ça dépend ayant moi-même 54 ans, je me permets de le dire, là, c'est des gens plus vieux. Puis j'ai encore l'air plus vieux que ça.
Ça dépend dans quelle région.
OK.
Parce qu'il faut aussi voir c'est quoi la courbe démographique de chaque région. Mais dans les faits, on a une nette progression dans l'électorat chez les jeunes. Puis on est le parti le plus jeune en termes de candidature. Puis je pense qu'on réussit à représenter toutes les générations en leur disant « Unissons-nous tous sur l'essentiel ».
Le Rassemblement conservateur à Québec de vendredi soir, on parle de 2500 à 3000 personnes dans le hall du centre Vidéotron. Allez-vous essayer de faire pareil d'ici la fin de la campagne? Allez-vous essayer de rassembler donc des milliers de personnes pour faire une démonstration de force?
Oui, on va avoir ça.
Allez avoir ça?
On va avoir notre grand rassemblement.
OK. Puis autant de personnes?
Ben, je veux dire, je veux pas m'engager à l'avance à quelque chose qu'on est en train d'organiser, mais je pense que, oui, tout à fait, le Parti québécois va non seulement attirer des gens, mais il va attirer aussi des personnalités qui vont être heureux de participer à ce rassemblement-là, puis de servir notre cause. D'ailleurs, on a eu beaucoup de soutien hein, dans l'écosystème de politiciens, de gens qui ont des bons mots à dire pour le Parti québécois. Donc, oui, on aura notre grand rassemblement.
Gabriel Nadeau-Dubois et François Legault, ils s'entendent pour dire qu'actuellement, on est dans une course à deux. Est-ce que vous vous sentez pas un peu exclu? Il me semble que je me sentirais un peu, largué.
Je trouve pas ça... Je trouve pas ça très respectueux de la démocratie puis des citoyens qui voient bien que c'est bel et bien une course à cinq qui se traduit très différemment d'un endroit à l'autre. À certains endroits, oui, ça peut être une course à deux. À certains endroits, c'est une course à trois. À d'autres endroits, c'est à quatre. Puis c'est rarement les mêmes parties. Donc, je pense que la population voit clair
ouais,
dans tout ça.
Oui, mais au global, là, M. Saint-Pierre Plamondon, quand même...
Au global,
est-ce que Gabriel Nadeau-Dubois peut aspirer à être chef de l'opposition? C'est un peu ça, la question, actuellement.
Je pense que chaque parti d'opposition en ce moment ont des aspirations légitimes, mais que la réponse, elle est dans l'urne le 3 octobre. Nous, ce qu'on sait avec certitude, c'est qu'on est en croissance, puis on le voit dans nos dons, dans le pointage, sur le terrain, puis on continue notre travail, peu importe ce que d'autres chefs diront pour tenter d'indiquer aux gens comment voter ou quels sont les choix. Je pense que les gens préfèrent faire leur propre opinion en écoutant chaque parti.
Il y a un de vos candidats qui a dit qu'on parlait trop de sondages pendant les élections.
C'est Pierre-Luc.
Pierre-Luc Briand.
Ben, il n'a pas dit ça, non. Il a dit, je pense qu'une réflexion pourrait être intéressante. Puis je pense qu'il y a eu une discussion sur d'autres pays qui ont décidé d'encadrer ça. C'est pas une réflexion qu'on
Parce que tout le monde vous pose des questions en fonction des sondages, beaucoup, là. Est-ce que ça va être la mort du PQ? Est-ce que vous allez avoir un ou deux
députés? Alors que nous, on tente de toutes nos forces de mener une campagne.
Est-ce que vous militeriez pour une espèce d'encadrement assez radical des sondages?
Je suis assez ouvert à ce que Pierre-Luc a dit. Il a dit on pourrait avoir une réflexion là-dessus, regarder ce qui se fait à l'étranger.
Ouais.
On n'a pas de réflexion définie là-dessus, là, en date d'aujourd'hui. Mais est-ce que oui, on peut regarder ce qui se fait à l'étranger, quel impact ça pourrait avoir sur la démocratie? Oui, on peut avoir cette réflexion-là. Nous, on mène une campagne très différente, je vous l'ai dit, sur l'indépendance, sur le français, mais aussi sur les baisses d'impôts, les baisses de taxes. On est les seuls à parler de la dignité des aînés. Donc, c'est sûr qu'on veut le plus possible une campagne sur notre avenir, une campagne d'idées où les gens font un choix en fonction de ce qui a été proposé.
Si vous perdez dans Camille Lorrain le soir du 3 octobre, restez-vous à la tête du parti?
Moi, je suis au service du parti. Et je suis optimiste par rapport à ma soirée du 3 octobre.
OK. Et là, ça freine. Oh, OK.
C'est ça, c'est les risques. Oui. Les entrevues en autobus.
OK, on retient l'ordinateur, l'enregistreuse. Bon, parfait. Donc, vous ne me répondez pas. Là, vous resteriez au parti?
C'est un parti de membres. Moi, mon engagement, il est envers les membres. Puis après, peu importe les issues possibles du 3 octobre prochain, il y a un vote de confiance puis un processus des membres après l'élection. Ouais. Donc ça a lieu dans tous les cas.
Okay.
Donc moi, je travaille pour avoir le meilleur résultat possible. On est en direction, à mon avis, de causer une surprise très agréable. Puis ensuite, la parole sera aux membres.
Tantôt, vous avez dit « je ne suis pas un commentateur, je ne suis pas un analyste », mais vous l'avez déjà été, puis c'est là que je vous ai connu, Paul, chez Bazo.tv.
À l'époque où je vous appelais mon oncle.
Oui, c'est ça. Je,
tu m'appelais
le
reine.
Je le suis de plus en plus. plus qu'hier, moins que demain, c'est ça qu'on dit, en tout cas. commentateur, ça, est-ce que c'est un boulot qui vous plairait après le 3 octobre?
Non, en fait, moi, j'aime mon boulot. Okay. Puis de la manière qu'on mène campagne, puis la rétroaction qu'on obtient en ce moment de la population, les chances que je sois commentateur le 3 octobre sont assez minces.
Okay. Peut-être une question sur les personnes âgées en terminant. Là. Ce matin, vous avez fait une annonce qui était assez prévisible. Vous l'aviez souvent dit, protecteur des aînés, on en a besoin d'un, même s'il y a déjà un protecteur du citoyen. Mais moi, je vous ai posé une question, puis je ne suis pas satisfait de la réponse que vous m'avez donnée. Là. À partir de ce que Claude Castonguay a dit en 2020, c'est-à-dire le Québec compte une proportion beaucoup plus élevée de personnes en CHSLD, en résidence pour personnes âgées, que les autres provinces canadiennes et les pays de l'OCDE. Il disait « Notre attitude envers les personnes âgées constitue un véritable trait culturel. » Est-ce qu'on a l'habitude d'abandonner nos aînés? Est-ce que c'est un trait culturel? Puis comment on pourrait, si c'en est un?
Non, je ne suis pas d'accord.
Non?
C'est pas un trait culturel. Comme je t'ai dit ce matin, je m'excuse de te décevoir à nouveau. C'est pas un trait culturel, c'est une question de politique publique.
Okay.
Si tes politiques publiques investissent dans le béton et créent une mise à l'écart de tes aînés, bien, le reste suit.
Okay.
La structure de la société s'adapte. Mais ce sont à la base de mauvaises politiques publiques, puis c'est ce qu'on veut renverser. Puis on parle souvent notamment du Danemark, qui a vraiment qui a renversé le modèle en disant ce sera le maintien à domicile, les soins à domicile, pour toutes sortes de bonnes raisons, notamment la mixité sociale. Donc, on parle beaucoup de mixité sociale entre les
Pourquoi
générations.
Pourquoi pas revenir avec l'idée d'une assurance autonomie du docteur Régimbert?
Bon, on l'a fait, nous autres, en termes de choix budgétaire. Notre cadre budgétaire est sorti, ça balance. Donc, on n'en a pas fait un mécanisme de financement.
Oh,
là,
vous avez failli dire grosse patente.
Non? C'est vous qui l'espériez de tout votre cœur. Okay. Malheureusement, ça n'a pas eu lieu.
OK, bon. Merci beaucoup, Paul Saint-Pierre Plamondon. On discutera de tous ces enjeux-là. On était à bord du carrosse de Cendrillon, donc l'autobus du Parti québécois avec le chef Paul Saint-Pierre Plamondon.
Au plaisir.
Cube Radio.